Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Comme à chaque fois, la période des élections éveille en moi beaucoup de violence. Une violence que beaucoup intériorisent. 5 nouvelles années sont passées, toujours sous le signe des répressions, des sorties racistes et sexistes banalisées sous l'égide de 10 représentants répréhensibles, mais intouchables et incompétents. Une complaisance constante avec l'indécence. La violence de vivre dans un pays, d'en faire partie avec le sentiment d'être une citoyenne de seconde zone. D'assister, impuissante, à la remise en cause constante de nos droits, de notre légitimité à être ici. De devoir régulièrement montrer patte blanche et justifier sa propre existence. De se rappeler chaque jour que les siennes, moins privilégiées, sont les premières victimes des décisions des plus hauts placés. La violence aussi d'être transfuge de classe et donc au premier rang du spectacle des injustices subies par les moins chanceux et chanceuses. La violence du manque criant d'exigence dans les débats largement diffusés, le manque de réaction organisée face à la discrimination internationale. La violence d'être encore sur une planète où être noir, arabe, musulman ou musulmane, femmes restent des obstacles quotidiens. La violence du manque de reconnaissance et de connaissance de l'histoire de notre pays et des sacrifices sur lesquels il s'est construit. Le manque d'esprit critique. La violence de se rappeler chaque jour que si demain sa famille devait se réfugier, elle n'aurait pas accès aux mêmes droits. Le caractère insidieux de ces inégalités. L'acceptation et la banalisation des violences que subissent certains corps, que nos regards sont tellement habitués à voir souffrir qu'on ne les considère plus vraiment. La violence de l'ethnocentrisme et de l'émotion à intensité variable, selon la couleur de la peau. La période des élections est toujours un moment très dur à traverser émotionnellement. Tous les 5 ans, j'ai un goût amer dans la bouche, l'impression de ne pas être chez moi dans ce pays qui est aussi le mien. Un sentiment d'injustice, de faire des pas en arrière, comme si on remettait en question notre histoire et notre légitimité à être ici, notre droit à être, tout simplement. J'ai d'abord été triste, puis en colère, puis je me suis rappelé que nous étions nombreux et nombreuses à nous battre au quotidien pour continuer à construire un monde plus à Delphes. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que j'accueille Fatima Bent, présidente de l'ALAB, une association féministe et antiraciste qui a pour but de faire entendre les voix et défendre les droits des femmes musulmanes à l'intersection entre plusieurs discriminations. Bonjour Fatima et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Nazia, merci pour l'invitation.
Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de toi et notamment de ce qui a suscité tes engagements ?
Je suis Fatima Aben, je suis la présidente de l'association LALAB que tu as très bien présentée, féministe antiraciste qui défend les droits, qui font entendre les voix des femmes musulmanes à l'intersection d'oppression sexiste, raciste, islamophobe à minima. Ça fait 6 ans que je suis dans l'association LALAB. Je suis arrivée à un moment de ma vie en 2016 où j'avais envie de m'engager, où j'avais envie de changer la donne. En fait, j'ai toujours été politisée depuis mon adolescence. J'ai toujours été hyper intéressée sur les questions d'identité, d'immigration, sur toutes les questions médiatiques, politiques qu'on voyait à la télé, sur le corps des femmes musulmane et sans mettre des mots vraiment concrets là-dessus, vraiment sur tous les débats qu'on voyait sur le voile depuis 2004 et depuis j'avais 14 ans à l'époque et vraiment je voyais à la télé une narration vraiment stéréotypée sur le regard des femmes musulmanes et dans laquelle je me retrouvais pas quand on parlait des femmes musulmanes et des femmes arabes, nord-africaines. J'ai toujours été hyper sensible à ces sujets-là. de l'immigration, de l'identité. Et ce qui a suscité mon engagement, c'est vraiment un condensé de colère, un condensé de frustration, un condensé vraiment d'expériences que j'ai pu vivre dans mon milieu professionnel, dans le milieu académique. J'ai fait des études, je suis partie à la fac, ensuite j'ai fait un master en communication en alternance. Donc du coup, j'ai travaillé dans des grandes entreprises en alternance et je me suis retrouvée dans un environnement où j'étais souvent la seule femme non blanche, où j'étais la seule femme musulmane, où j'étais la seule qui, quand il y avait des pots, on me demandait pourquoi je ne buvais pas d'alcool, si je faisais le ramadan, à quoi ça servait exactement, qu'est-ce que ça voulait dire de faire le ramadan, est-ce qu'on peut boire de l'eau. Toutes ces petites micro-agressions ou injonctions où tu as l'impression que les gens en fait, autour de toi suivent une narration médiatique et politique qui est fausse et dans laquelle toi, tu es constamment dans la représentation de la bonne femme musulmane ou en tout cas de celle qui ne fait pas de bruit, celle qui est intégrée. Donc, j'ai vachement assimilé cette injonction à faire profil bas, à vouloir vraiment être la plus neutre possible. Je me suis rendu compte vraiment grâce à la Lab et grâce à mon engagement que c'était tout ça des mécanismes en fait, de domination que j'avais intériorisés. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'en avais marre en fait, de toutes ces questions-là. Et puis même, moi, titre personnel, j'ai grandi dans une famille aimante et je ne comprenais pas toutes ces narrations sur les hommes immigrés, sur les femmes musulmanes, sur mes frères, sur le voile que porte ma sœur, que porte ma mère, que portent plusieurs femmes de ma famille. Et j'avais tout le temps cette narration dans laquelle je ne retrouvais pas les femmes que je fréquentais dans ma vie. Et quand la Lab est arrivée, c'était une projection du Women Sense Tour, un épisode de Maroc que Sarah Zouak, qui est donc la cofondatrice de la Lab avec Justine Devillaine, était partie filmer 5 femmes au Maroc pour montrer justement des femmes musulmanes qui sont à l'opposé de ce qu'on raconte sur elles. Et c'était à la Gaîté Lyrique, je m'en souviens, j'étais partie à cet événement et je me suis dit, waouh, c'est quoi cet assaut? J'avais senti énormément de bienveillance dans le travail de Sarah, j'avais senti énormément de sincérité dans sa démarche et dans toute l'équipe avec qui elle était, il y avait Attika Trebelsi ce jour-là. Et donc du coup, j'ai senti vraiment de la puissance à cet événement-là et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça parle d'identité, ça parle de femmes musulmanes, ça parle de féminisme et d'antiracisme. Et juste auparavant, avant la Lab, j'étais engagée dans une asso féministe aussi, mais qui n'appréhendait pas du tout la dimension antiraciste. Et encore une fois, j'avais l'impression que je devais me mettre au placard, que je devais me cacher mon identité musulmane, mon identité de femme issue de quartier populaire. Et c'était frustrant. J'avais l'impression qu'il y avait une part de moi, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui n'était pas entier, qui n'était pas sincère. Et du coup, quand j'ai découvert la Lab, je me suis dit, tiens, c'est dingue qu'un espace comme celui-ci puisse exister. Et quelques mois plus tard, j'ai assisté au La Lab Day, donc c'est une des activités de la Lab où on accueille les nouvelles bénévoles. Donc du coup, j'étais une nouvelle bénévole à ce moment-là. Et là, j'ai rencontré Justine, Sarah, Attika, j'ai rencontré toute la team, Clotilde, enfin toutes ces femmes-là en fait qui étaient là aux prémices de la Lab, au commencement de la Lab, qui ont vraiment construit la Lab et qui ont vraiment fait de la Lab, qui ont posé les premières fondations de cette association-là. Et je me suis retrouvée dans un environnement où il y avait des femmes musulmanes comme moi et des femmes non musulmanes mais qui étaient extrêmement conscientes et ouvertes d'esprit, qui sont pas dans la question, dans la maladresse, à te poser des questions gênantes comme j'ai pu en avoir moi dans ma vie professionnelle. Ou même en cours. Là, j'avais face à moi des personnes qui... j'étais avec mes gens, en fait. C'était mon environnement. J'étais vraiment bien. Je me suis dit, tiens, c'est dingue. Je ne savais pas que ça existait, de se sentir à l'aise ailleurs que chez soi, alors que dans sa famille, dans son cocon, ailleurs que chez ses amis qu'on a choisis. Là, je suis dans un environnement où je ne connais personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une magie qui est en train de s'opérer, qu'il y a quelque chose d'assez puissant. On avait fait toute une journée d'atelier sur l'identité, sur ce que c'est qu'une femme racisée, ce que c'est que le racisme. Et ça, je me suis rendu compte que j'étais chez moi, que c'était ma place et que... Je dis souvent à Sarah, très souvent quand on pose la question pourquoi la Lab, je dis très souvent que c'est Dieu qui a répondu à mes prières. J'étais vraiment dans un besoin, vraiment au fond de moi, de me trouver dans un environnement où je me sens à ma place, où je me sens respectée, où je me sens aimée, où je me sens valorisée. Et c'est à partir de là vraiment que la Lab a fait tout le travail. La Lab, c'est une machine, c'est une école politique, c'est une machine qui transforme. Il y a un pouvoir transformateur chez la Lab qui est vivant. Moi, en 6 ans, je me rends compte que j'ai énormément évolué sur plein de questions, même mon rapport au féminisme, mon rapport à mon corps, le rapport que je peux avoir aussi à ma spiritualité, à mes croyances. Ça a décomplexé, ça a cassé énormément de croyances limitantes grâce à toutes les activités qu'on a lancées, grâce à toutes les paroles et les discussions qu'on a pu avoir dans notre collectif et tous les événements qu'on a pu mettre en place. Il y a vraiment une espèce de force motrice et une solidarité, une expression nouvelle et vraiment un pouvoir collectif qui s'est mis en place grâce à la Lab et que je sens au fond de moi. Et que voilà, donc du coup, ça fait 6 ans aujourd'hui que je milite au sein de cette association-là. Et la Lab, c'est une association qui défend les droits et qui fait entendre les voix des femmes musulmanes. Et il y a un principe vraiment fondamental qu'on a chez la Lab, c'est la parole aux concernés. La Lab souhaite vraiment changer le paradigme de lutte contre les discriminations. Comment on change le paradigme de lutte? C'est en introduisant, en centrant les voix des femmes musulmanes. Et nous, c'est ce qu'on œuvre à faire au sein du collectif depuis maintenant 6 ans, c'est vraiment de faire entendre, d'introduire les voix des femmes musulmanes, de dire que c'est un collectif qui est ouvert à tout le monde, hommes, femmes, non-binaires, enfin vraiment tout le monde est le bienvenu chez la LAB. On n'est pas obligé d'être musulman ou d'être musulmane pour participer, pour être bénévole au sein de l'association, mais en tout cas, il y a vraiment une règle d'or qui est la parole aux concernés. C'est vraiment toutes les personnes concernées par les discriminations dont on parle qui doivent vraiment agir, qui doivent vraiment penser les réflexions, qui doivent vraiment avoir, on va dire, la décision stratégique de porter ce combat-là. Et oui, c'est extrêmement puissant de se dire que, en fait, j'ai un pouvoir en moi, un pouvoir qu'on a toujours voulu étouffer. Il y a vraiment chez la LAB ce pouvoir transformateur qui fait que vraiment on redonne aux femmes musulmanes leur capacité d'agir, on redonne à des femmes musulmanes leur confiance en elles. Il faut savoir que, en fait, quand on vient chez la LAB, on vient avec nos fragilités, avec nos traumatismes, avec nos douleurs, avec nos souffrances, avec nos questionnements, avec nos doutes qui sont légitimes, qui sont le fruit en fait de toutes nos années passées dans une société qui nous a vraiment violentés, où on a fait face à des injonctions extérieures, à des injonctions médiatiques et politiques qui sont frustrantes et destructrices en fait pour nous et pour nos âmes et pour nos mentales. Et quand on est arrivé chez la LAB et de construire une résistance collective sur la base de ces fragilités individuelles-là, tout en se préservant de la volonté extérieure de vouloir nous détruire avec toutes les violences islamophobes et racistes qu'on entend sur la LAB, c'était déjà un pari, enfin c'est déjà extrêmement fort en fait de vouloir créer un collectif comme celui-ci. Et nous, en tant que femmes musulmanes, de venir dans un environnement comme celui-ci et de créer un espace réparateur, un espace de solidarité, un espace en fait où les femmes sont accueillies avec leur fragilité, sont écoutées, on se donne de l'amour, on se donne de l'espoir, on se donne de la bienveillance, et c'est vraiment la LAB un espace, enfin nous on s'est rendu compte chez la LAB que pour transformer ce paradigme de contre les discriminations, pour transformer la société, il fallait déjà qu'on se répare nous-mêmes. Il fallait déjà qu'on vienne dans un environnement en se disant « Ok, on est toutes au bout de notre vie, on est complètement, on vit des choses horribles dans nos réalités, et même souvent une précarité matérielle, une précarité émotionnelle qui, en plus de ça, rajoute à toutes les violences qu'on subit. » Et du coup, de se dire bah, « En fait, vous êtes chez vous ici, et de s'apporter de l'amour, de s'apporter de la solidarité, ça nous centre déjà. » En fait, on passe de ce statut-là de femmes marginalisées par la société à des femmes qui sont au centre, en fait, qui sont vraiment le focus, en fait, maintenant, il est sur nous-mêmes, et il faut d'abord se réparer pour ensuite, justement, parler et créer cette communauté d'expression qui crée, avec le magazine en ligne qu'on a lancé, cet espace de narration émancipatrice, de cette narration qui nous dépeint selon nos conditions. C'est nous qui sommes les héroïnes en fait, de nos vies, qui sont les héroïnes de nos histoires. Et du coup, quand on prend la parole, déjà, c'est extrêmement émancipateur. Et c'est fort de se raconter par ses propres yeux et de ne pas s'entendre en fait, ailleurs lorsqu'on parle des femmes musulmanes, alors que c'est complètement faux. Là, c'est nous qui prenons la plume, qui prenons la parole, que ce soit avec le festival aussi qu'on met en place chaque année, où on fait entendre les voix des femmes musulmanes. Donc il y a vraiment cette volonté vraiment d'introduire et de centrer les voix des femmes musulmanes et de leur remettre au centre du discours politique et médiatique des femmes musulmanes qui ont tout le temps été marginalisées, qui ont tout le temps été silenciées, parce que des femmes puissantes, il existe, ça existe enfin, dans la société, on les connaît dans nos familles, dans nos communautés. Nous, chez la LAB, on s'inscrit vraiment dans cette chaîne de femmes résistantes, de femmes qui nous ont ouvert la voie, des femmes comme Amina Wadud, Asma Lamrabet, Fatima Mernissi, Kimberly Crenshaw aussi, qui n'est pas musulmane, mais qui est une activiste afro-américaine beaucoup mis en valeur la notion d'intersectionnalité qui est aussi un des principes fondamentaux chez la LAB. Du coup, de vraiment mettre en valeur toutes ces femmes-là qui sont non blanches, musulmanes et qui sont en fait, qui ont déployé en fait une pensée féministe extrêmement puissante. Je me suis rendu compte, en fait, le pouvoir, on l'a en nous. C'est juste qu'on nous l'a refusé, c'est juste qu'on nous l'a retiré, c'est juste que cette société, en fait, elle nous divise individuellement et collectivement, elle nous retient notre pouvoir d'agir, elle nous retient notre capacité. Ça fait partie en fait des systèmes de domination, de vouloir nous annihiler et de vouloir nous retirer toute notre capacité, notre agence. Et la LAB en fait a remis ça en fait au cœur de sa réflexion féministe et antiraciste, vraiment de centrer, d'introduire les voix des femmes musulmanes pour justement devenir cette communauté de femmes puissantes, de pouvoir collectif qui change la donne. Et c'est ce qu'on essaye de faire humblement depuis 6 ans. Et ouais, on a apporté pas mal de sujets sur la table, que ça sur la question de la santé mentale, sur la question de l'anxiété. Enfin, on avait fait un atelier il y a 3 ans qui est animé par Johanna Soraya, qui est cofondatrice des féministes contre le cyberharcèlement, et Anlia Mustafa, qui est cofondatrice de Anlia Modest Fashion et qui est créatrice de contenu. On avait fait un atelier sur la santé mentale, et en fait, on avait demandé à toutes nos bénévoles d'écrire sur un post-it de quoi elles souffrent et quels sont les mots en fait qu'elles vivent dans leur vie. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de troubles de l'anxiété, il y a eu pas mal de problèmes liés à notre santé mentale, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, cette santé mentale-là, il faut la préserver. Il faut dénoncer en fait à quel point la société nous détruit mentalement avec toutes ces injonctions islamophobes, sexistes et racistes. Et c'est vraiment en créant cet espace de réparation, cet espace vraiment on s'apporte de l'amour, du soin, et on se forme collectivement et on libère la parole, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, notre pouvoir collectif, en fait, il naîtra uniquement que par la création d'un espace d'épanouissement individuel et collectif, et en se centrant nous-mêmes et en mettant nos propres problématiques au centre des sujets, et de les régler nous-mêmes et de trouver des solutions par nous-mêmes.
C'est vrai que c'est très important ce que tu dis sur l'importance du soin, de prendre soin de soi. On a souvent l'impression que le militantisme, c'est du sacrifice.
Cette notion de soin, c'est aussi de... quand on allume sa télé, quand on allume la radio, on voit tout le temps des narrations très dures sur nous-mêmes, sur nos corps, sur nos identités, sur nos réalités, sur nos histoires, en fait. Des histoires qui sont déjà traumatiques, dans lesquelles on ne se représente pas en tant que de femme puissante. Et c'est important de prendre l'appui. Mais c'est vrai que chez La Lab, il y a vraiment un discours public et un discours narratif qu'on essaye de prendre déjà par le magazine, par le Muslim Women's Day qu'on organise tous les ans le 27 mars, par le festival aussi, par tous ces moyens en fait, de communication et toutes nos prises de parole en fait, pour justement avoir une narration qui soit la plus émancipatrice, la plus centrée sur nos réalités, celle qui prend vraiment à corps nos problématiques et qui l'adresse de manière vraiment émancipatrice en disant toutes les femmes, ben en fait, nous sommes là, nous existons, nous sommes des femmes puissantes, nous sommes des femmes résilientes, nous sommes en train de construire une société où chaque femme peut être elle-même sans peur d'être jugée, discriminée, violentée. Et vraiment, c'est extrêmement puissant. En effet, le soin, le care, c'est vraiment ça qui va permettre ensuite à des individus de se réparer. Enfin, moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi, La Lab, c'est que ça m'a réparé intérieurement, ça m'a refermé des blessures, ça a cassé des croyances limitantes et ça m'a permis vraiment de croire en fait en mon potentiel, au potentiel de toutes les femmes musulmanes, à me voir en miroir avec d'autres femmes de l'association qui vivaient les mêmes réalités que moi, de retrouver une famille avec qui je n'ai pas grandi, avec qui je n'ai aucun lien de sang, mais qui me connaît, enfin qui connaît ces réalités, ces failles-là dans lesquelles on arrive à se voir et de se réparer collectivement pour vraiment créer cette société, cette puissance collective, ce pouvoir collectif qui va nous permettre justement de faire entendre nos voix, de changer les politiques publiques, de porter ce pouvoir collectif-là dont on est consciente parce qu'il existe en fait par l'histoire des femmes musulmanes de nos traditions et de nos communautés et dont on veut être en fait les héritières et dont, dans lesquelles en fait on veut s'inscrire et qu'on va continuer à porter. Ouais.
Tu parles de croyances limitantes, est-ce que tu veux dire que dans les médias, etc., toutes les images des femmes musulmanes ou non blanches sont des représentations négatives ?
Dans mon histoire personnelle, quand on est une femme non blanche, quand on s'appelle Fatima, quand on a un faciès très typé, dans une société qui a tendance à toujours mettre en avant des femmes comme moi sous le prisme de femmes dominées, de soumises, de films, de livres, de chansons, de tout cet art en fait qui est extrêmement manipulateur et qui a tendance à nous détruire, c'est dur de retrouver de la force en fait, de se dire qu'en fait, de toute façon, les femmes comme moi, en fait, elles sont pas puissantes. Il n'y a pas de femme puissante qui s'appelle Fatima. Et pourtant, il y a des femmes puissantes qui s'appellent Fatima, qui portent ce prénom-là. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu du mal dans cette société à voir en fait quelque chose de positif sur les femmes musulmanes et sur les femmes qui me ressemblaient physiquement et qui avaient le même prénom que moi. Et en plus de ça, la société te dit que tu n'es pas faite pour faire des études longues, tu n'es pas faite pour faire telle et telle étude, tu n'es pas faite pour faire tel ou tel métier, tu n'es pas faite pour vivre dans tel ou tel quartier. Et en plus de ça, moi, j'ai un environnement familial qui est... Enfin, mon père est ouvrier, ma mère est mère au foyer. Donc, du coup, il y avait même un accès au savoir ou un accès aux institutions qui était limité. C'est-à-dire qu'en tant que fille d'ouvrier, on vient d'un environnement qui n'est pas privilégié. Donc, on n'a pas accès, on n'a pas les clés pour aller justement dans ces grandes institutions et monter l'ascenseur social, comme on dit. Et du coup, on doit tout faire tout seul, on doit se débrouiller, on doit aller chercher l'information nous-mêmes, on doit vraiment casser nos propres barrières, nos propres croyances, parce qu'on se dit qu'au fond, nous, on peut y arriver et qu'on le fait aussi pour nos parents, on le fait aussi pour nos familles, pour montrer qu'il existe aussi des belles histoires. Mais c'est dur, enfin, il y a toujours cette injonction-là à devoir se réaliser parce qu'il le faut, avec la charge mentale que ça veut dire aussi d'aider les siens, de trouver un travail stable, de vouloir gagner sa vie dignement pour justement sortir de la galère et sortir de la pauvreté, etc. Donc en fait, il y a énormément de choses en fait, que ça cristallise. Et en effet, quand on a déjà cette démarche-là émancipatrice individuelle dans laquelle on fonce, et à côté de ça, on entend constamment des préjugés et des violences à notre égard, et que ces violences-là ont un impact sur nos vies, parce que ça nous met des barrières dans notre ascension académique, professionnelle, parce qu'on nous ferme des portes, parce qu'on s'appelle Fatima et que discrimination à l'embauche, discrimination à l'emploi, discrimination à l'école, c'est dur en fait de surpasser tout ça et de se dire mais en fait je ne me réaliserai jamais comme je le veux parce qu'il y aura toujours des barrières en fait dues à la société qui vont m'empêcher d'accéder à des choses que moi j'aspire être capable d'atteindre. Chez La Lab, on a lancé des programmes d'éducation populaire il y a 2 ans pour justement redonner aux femmes musulmanes cette capacité d'agir et leur dire en fait vous pouvez y arriver. Et on les forme sur 6 mois, 1 an sur justement travail, éducation et santé, sexualité pour qu'elles connaissent leurs droits, qu'elles aient l'information, qu'elles aient les bonnes clés de compréhension pour justement que ces barrières-là qui se mettent sur leur chemin elles puissent les franchir et s'en affranchir pour justement se réaliser et s'accomplir. Parce que dans cette société, en fait, quand on ne cherche pas l'information, elle est très dure à trouver.
Tu Tu as cité quelques actions. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les principales choses que vous mettez en place et peut-être les futurs événements ?
En effet, on s'est rendu compte chez la LAP que pour se réaliser collectivement, il fallait déjà qu'on se répare individuellement, qu'on crée cet espace de solidarité, de bienveillance, d'amour, de soins, des espaces justement où on se retrouve entre femmes musulmanes qui vivent des violences pour s'apporter justement de l'aide. Et ça passe notamment par les LALAP D, qui sont des jours d'intégration, des journées d'intégration des nouvelles bénévoles. Donc c'est une journée, c'est un week-end pendant lequel on accueille des nouvelles bénévoles avec des ateliers, avec vraiment un environnement où on essaye d'être le plus bienveillant possible. On essaie vraiment de mettre en place des ateliers sur nos corps, sur la santé, sexualité, sur la spiritualité, de transmettre aux nouvelles bénévoles les valeurs et la mission de la LAB. Donc vraiment créer cette communauté de solidarité hyper puissante. On a également la nécessité de nous exprimer, donc de prendre la parole. Et du coup, on a créé une communauté d'expression. L'expression, ça passe par le magazine en ligne. Donc je te disais, il y avait toute cette démarche vraiment émancipatrice de prendre la parole, de se raconter. Le magazine en ligne, ça a été une des premières vitrines de la LAB au tout début. En 2016, c'était ce qui a permis de mettre en valeur des portraits de femmes musulmanes inspirantes, des portraits de femmes musulmanes qui vont à l'encontre des préjugés qu'on raconte sur elles. Il y avait aussi Atika Trabelsi qui avait publié Power of Stories, qu'elle avait sorti à 2-3 ans, je crois, pendant le ramadan, où il y avait chaque jour un portrait d'une femme musulmane qui a œuvré à quelque chose de bénéfique, a œuvré à changer la mentalité à une époque historique. Et donc, du coup, ça a donné lieu à la sortie de son livre quelques années plus tard. Qu'est-ce que serait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas existé ? C'est vraiment cette démarche émancipatrice de reprendre la parole, de visibiliser des femmes qu'on entend très peu, de montrer des portraits de femmes musulmanes, de parler de soi, par exemple sur le tabou des règles, sur les troubles alimentaires, sur l'action de la santé mentale, sur l'action de la sexualité également, du mariage. Donc vraiment, ce magazine en ligne, il se veut vraiment un espace où les femmes musulmanes parlent d'elles-mêmes par leur propre prisme. Cette communauté d'expression, en fait, elle a aussi un but chez la LAB, c'est que lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on se raconte individuellement, il y a aussi cette narration miroir où d'autres femmes qui nous lisent se reconnaissent dans nos réalités, dans nos vécus, et que cette histoire individuelle, elle devient collective lorsqu'on se sent toutes et tous concernés par les mêmes problématiques, par les mêmes histoires, par les mêmes émotions, lorsqu'on se rend compte qu'on vit les mêmes valeurs. Et le but chez la LAB, justement, c'est ça, c'est de mettre en valeur des personnes qui, grâce à cette communauté d'expression de solidarité, qui partagent les mêmes valeurs. C'est vraiment par la force de la parole et de l'écrit et de l'histoire de transformer la peur en espoir, de transformer l'isolement en solidarité, de transformer le doute de soi qu'on peut ressentir en confiance dans un collectif. On a aussi des ateliers mensuels qu'on appelle le LALAB Agora. C'est des ateliers en fait où on se réapproprie les savoirs, où on discute, on démocratise l'accès au savoir pour le rendre le plus accessible. En fait, c'est un lien entre la recherche académique et l'activisme. On s'est très vite rendu compte chez LALAB que souvent, dans les milieux militants, il faut un certain niveau d'élévation académique pour avoir accès à certains écrits, ou en tout cas, il faut un certain niveau de connaissance du milieu académique pour avoir accès à certaines œuvres. Et nous, chez LALAB, on a voulu les rendre accessibles en fait, à des femmes qui n'ont pas fait d'études, à des femmes qui n'ont pas du tout vocation à faire des études, qui ne veulent pas et qui se sentent très bien dans leur vie. Et du coup, on voulait vraiment démocratiser l'accès au savoir et explorer des savoirs nouveaux. On parle pas mal aussi de Asma Lamrabet aussi, on étudie pas mal ses livres. C'est des espaces en fait, vraiment, on parle de sujets qui nous concernent, de réalités sur la spiritualité, sur nos corps, nos identités. Ces espaces-là de discussion sont extrêmement puissants, qui ont pour but de créer des savoirs nouveaux et de questionner en tout cas les savoirs, de casser l'homogénéité en fait, qu'on a sur les savoirs sacrés par exemple, et de se dire sous un prisme féministe et de concerner comment on fait justement pour vivre une spiritualité qui soit la plus décomplexée et qui soit la plus proche de nos identités. Cette communauté d'expression qui existe aussi avec le groupe de parole où on se retrouve chaque mois pour discuter, et plus largement, il y a aussi la communauté de pouvoir, une communauté de femmes musulmanes qui s'organisent collectivement, qui veulent changer le paradigme de lutte contre la discrimination. Donc ça passe par du plaidoyer, ça passe par des tribunes qu'on publie. Chez la LAB, on essaie aussi de changer la donne au niveau européen. On fait partie de plusieurs réseaux de lutte contre les discriminations au niveau européen. Vraiment, c'est ces trois grandes activités. Il y a aussi en effet le Muslim Women's Day, qui est une activité qu'on organise tous les ans au mois de mars. On fait entendre les voix des femmes musulmanes dans l'espace médiatique sur une thématique particulière. On a abordé l'éducation, on avait abordé la santé mentale, le pouvoir collectif des femmes musulmanes l'année dernière. Et cette année, on a abordé la question des discriminations à l'emploi, qui est une thématique de campagne qu'on a lancée depuis quelques semaines. Et puis le festival, qui est aussi une forme de visibilisation des femmes musulmanes, de mettre en valeur des femmes musulmanes qui changent la donne, qui font bouger les lignes, de les entendre, de les valoriser pendant un événement spécifique qui aura lieu cette année le 11 juin sur la thématique des tisseuses. Donc ces femmes qui nouent, qui renouent des liens, qui construisent des attaches familiales traditionnelles, qui réparent les liens, qui couent vraiment ces attaches-là, des fois qui sont défaites. Le festival aura lieu le 11 juin à la Bellevilloise à partir de 13h et toutes les infos sont sur notre Instagram et notre Facebook à Solalab.
On a beaucoup parlé au début de notre échange de comment tu étais arrivée à cet engagement et comment tu vis, toi, cette période d'élection qu'on est en train de subir un petit peu en ce moment?
Elle était extrêmement dure. Je pense que le fait d'être engagée dans une asso féministe antiraciste, tout est décuplé et on voit tous les moindres détails de cette machine politique qui est vraiment violente. Que ce soit par exemple le gouvernement de Macron depuis les 5 dernières années, à quel point ce gouvernement était extrêmement violent vis-à-vis des femmes musulmanes, vis-à-vis des musulmans. La loi séparatisme, que ce soit tous les débats incessants qu'on voit sur le corps des femmes musulmanes.
Les mamans accompagnatrices.
Les mamans accompagnatrices, les femmes qui souhaitent se baigner en maillot de bain couvrant et qui ont d'ailleurs gagné à Grenoble, Alliance citoyenne, l'autorisation de pouvoir se baigner en maillot de bain couvrant ou seins nus, et c'est génial.
Oui, voilà. J'allais parler d'intersection, c'est important de rappeler que c'est pas juste être couverte, c'est aussi avoir les seins dénudés, c'est aussi, même je crois pour les hommes aussi, de pouvoir mettre des slips de bain. Donc on cristallise le débat sur les femmes qui portent un foulard et qui veulent porter un maillot de bain couvrant, mais en fait c'est une loi sur la liberté de toutes et tous.
En fait c'est ça, c'est lorsqu'on défend le droit des femmes à disposer de leur corps, en fait quand on défend le droit des femmes à porter un foulard, on défend leur droit à disposer de leur corps librement. Et on défend autant les femmes qui luttent contre l'obligation de le porter ailleurs que pour les femmes qui luttent justement pour pouvoir le porter parce qu'elles ont fait le choix de le porter. Et ça, c'est important à noter que lorsqu'on défend les droits des femmes musulmanes, on défend la liberté de chacune à disposer de son corps et on défend les droits de toutes les femmes. C'est vraiment important de se dire que défendre les droits des femmes musulmanes, c'est vraiment ce qui va permettre justement d'ouvrir le champ des libertés encore plus et de se dire si celles qui sont les plus discriminées ont droit à un accès à leur liberté, à leurs droits fondamentaux, c'est toutes les femmes au final qui jouissent et qui profitent de toute cette libération-là. Donc c'est extrêmement puissant de se rendre compte que les femmes musulmanes ouvre la voie. Les femmes musulmanes, vraiment, sont pionnières. Et ça s'inscrit vraiment dans cette continuité historique. On a toujours eu des femmes musulmanes qui ont changé la donne, des femmes musulmanes qui se sont vraiment... qui ont lutté en avant-première ou de front contre les injustices sociales, climatiques, antiracistes, féministes. Et de se dire que, ouais, c'est, les femmes musulmanes sont extrêmement puissantes, en fait.
Comment on peut vous soutenir et s'engager? Parce que j'entends qu'il y a beaucoup d'événements toute l'année. Plus accessibles, moins accessibles, en mixité, en non-mixité. C'est ouvert à toutes et tous, ouais, même les personnes qui ne sont pas musulmanes.
On fait des événements, les événements extérieurs qu'on fait, que ce soit le Muslim Women's Day, quand on avait fait des événements en ligne, ou même des événements, le Muslim Women's Day qu'on avait fait aussi à la Bellevilloise il y a 2-3 ans, ce sont des événements qui sont en mixité, qui sont ouverts à tout le monde, hommes, femmes, personnes non-binaires, musulmanes, pas musulmanes, c'est vraiment, tout le monde est le bienvenu, c'est l'événement principal. On a eu une période de Covid qui a limité fortement nos productions extérieures et nos événements. Vous pouvez nous soutenir, assister à nos événements, là le festival c'est le prochain, on a aussi des dons que vous pouvez nous faire en ligne. Et c'est vrai qu'en tant qu'association féministe antiraciste, là, avec ce qui se passe aussi politiquement, de surveillance accrue de toutes les pratiques des personnes musulmanes, de surveillance accrue des associations qui s'auto-organisent, qui développent leurs propres programmes, leurs propres activités pour justement défendre les droits de personnes les plus discriminées, notamment nous, chez la LAB, des personnes musulmanes. Et on sait à quel point il y a un gros problème en France sur les droits des personnes musulmanes, à quel point il y a un acharnement politique à dissoudre des associations, une facilité à dissoudre tout ce qui ressemble de près ou de loin à la défense des musulmans ou à la création d'espaces solidaires portés par des musulmans. Et tu parlais tout à l'heure d'environnement politique, et c'est vrai que les musulmans ces dernières années ont vécu un environnement politique extrêmement toxique avec la fermeture de le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a quand même fermé des associations comme le CCIF, qui a fermé des librairies, qui a fermé des écoles aussi. Enfin, il y a eu des structures musulmanes qui ont fermé sur la base d'éléments complètement aberrant, de mauvaise gestion en interne, de je ne sais quel truc administratif. Il y avait toujours ce truc de tant que c'est fait par des musulmans pour des musulmans, c'est forcément problématique, il faut le fermer. Donc Darmanin a vraiment acharné sa politique de répression sur les musulmans et sur les structures des personnes musulmanes, et ça nous a énormément fragilisés et questionnés chez la LAB. Parce qu'on est dans la ligne de mire, on est quand même... Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui, nous ralentit dans nos activités. Et il faut savoir que c'est le propre des musulmans de constamment être dans la justification, dans la peur du moindre faux pas, d'être constamment à l'affût d'un agenda islamophobe, alors que ça nous ralentit de nos propres activités et que c'est même un objectif de nous ralentir pour justement nous épuiser à répondre à leurs injonctions, à montrer patte blanche, à montrer qu'on fait les choses bien pour justement ne pas mettre cette énergie-là à construire nos activités, à se transformer, à construire vraiment cette chose puissante qu'on essaie de mettre en place depuis 6 ans. Donc politiquement, on vit dans un environnement qui est extrêmement dur psychologiquement. Nous, chez la LAB, on a eu pas mal de femmes musulmanes de la LAB qui nous ont fait remonter de l'anxiété, de la peur par rapport à la société, par rapport à ce qui se passe actuellement avec les fermetures aussi, la surveillance des mosquées. C'est extrêmement dur. On se rend compte qu'il y a un acharnement, une recrudescence de politiques répressives à l'encontre des musulmans qui est extrêmement inquiétante. Nous, chez la Lab, on s'organise justement on s'apporte de l'amour, on essaie vraiment de se créer des groupes de parole aussi, on essaie de se soigner, de se réparer, de faire une thérapie collective face à tout cela, et comment nous soutenir. Enfin, je pense qu'il faut vraiment soutenir toutes les associations et plus largement en dehors de la Lab qui œuvrent justement, qui s'auto-organisent en fait, antiracistes, féministes, qui s'auto-organisent pour les droits des personnes minorisées, des personnes discriminées, des personnes qui œuvrent en fait, qui ne sont pas aidées par l'État, parce que l'État les a dans leur ligne de mire, mais qui font un travail de terrain considérable, qui font un travail de terrain d'émancipation magnifique pour les personnes discriminées. Il faut les soutenir, il faut leur faire des dons. Nous, chez la Lab, vous pouvez nous faire des dons également. Soutenir leurs actions, participer à leurs événements, leur donner de la force, leur écrire aussi, ça fait du bien de recevoir des messages d'amour. Nous, quand on vit des périodes assez inquiétantes, on reçoit souvent des mails de personnes qui nous disent merci d'exister, merci d'être là, vous nous faites du bien et ça nous réchauffe. En fait, on se dit, ça réchauffe le cœur et on se dit, on sait pourquoi on existe, on sait pourquoi on est là. Quand on voit ce genre de messages et ce genre d'impact en fait, qu'on a sur les personnes, c'est extrêmement salvateur et ça nous donne envie vraiment de continuer encore plus la lutte.
J'ai l'impression qu'aussi au quotidien, le terme, c'est comme tu disais, prendre soin. Parce que sans être engagée dans une association, moi j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ne sont pas blanches et qui autour d'elles ont subi des débats qui n'ont pas été consentis sur la politique, sur le burkini, sur ce qu'ils appellent le burkini, des choses comme ça. Et je trouve ça important aussi de dire aux personnes non concernées de faire attention à leurs prochains et de vraiment les mettre en sécurité. Au travail, dans la société, ne pas leur imposer des choses qui peuvent être extrêmement violentes, comme tu disais tout à l'heure.
Oui, en effet, dans ce truc-là d'entraide et de solidarité, il y a aussi la place des alliés, enfin, des personnes qui ne sont pas concernées par ces problématiques-là, mais qui doivent aussi, enfin, qui ont un rôle important à jouer, justement, de préserver, de faire, enfin, je pense notamment à l'environnement professionnel. Moi, à titre personnel, j'ai vécu pas mal de ce type de violence-là, d'injonction, de débat pendant les pauses déj, de débat à la machine à café sur, t'as vu, dernier débat sur le voile, quand même, c'est, enfin, toi, t'es là en mode, c'est violent, en fait. Et quand tu vois des personnes pas concernées, qui ne prennent pas la peine, de, en tout cas qui sont dans la complicité ou dans le silence, c'est extrêmement dur. Donc il faut aussi se dire qu'en fait, lorsqu'on assiste à ce type de scène, il ne faut pas hésiter à intervenir, il ne faut pas hésiter justement à ouvrir la voie, à parler, de libérer la parole, parce que c'est extrêmement anxiogène pour nous, les principaux concernés, de constamment être dans la justification, être constamment dans le fait de vouloir montrer patte blanche, de vivre des épisodes professionnels qui sont traumatisants, où en fait on n'a même plus envie de déjeuner avec les collègues, on n'a même plus envie d'aller boire un café, on a juste envie de s'enfermer dans son bureau. Et là, je pense que le télétravail a pas mal facilité, ou en tout cas a pas mal permis à certaines personnes. Enfin, moi, j'ai le télétravail, enfin, à l'époque, il y a 2 ans, je travaillais dans une structure où c'était très dur psychologiquement, il y avait pas mal de ce genre de débat-là. Et puis, le fait d'être en télétravail, ça m'a certes coupé d'un environnement social professionnel, mais en tout cas, ça m'a préservé de ce type de débat, de ce type d'injonction. Donc, oui, c'est. Il faut se dire que ces personnes-là, lorsqu'on est une personne racisée et qu'on subit des violences au travail, et ce type d'injonction de politique, de débat politique, en fait, on s'isole. On n'a plus envie de déjeuner avec ses collègues, on n'a plus envie de s'asseoir à table, on n'a plus envie de sortir. Et cet isolement-là, en fait, il est dur psychologiquement parce qu'on se dit que le travail, c'est quand même ce qui nous occupe la plus grande partie de notre semaine et de notre journée. Et c'est dur d'aller travailler, d'avoir une boule au ventre le matin en se disant « je vais croiser mon collègue qui va encore me poser une question, une énième question sur le... sur, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui, en fait. » Et la place des non-concernés là-dedans, c'est justement de faire front, enfin de faire bloc contre ça, de préserver nous notre mental, parce qu'on n'a pas que ça à faire, à justifier nos humanités. Moi, je n'ai pas signé un contrat pour ça, typiquement. Et de l'autre côté, d'avoir ce rôle vraiment d'allié et de faire tampon, en fait, entre ces personnes-là qui sont extrêmement violentes et ces personnes-là qui subissent en fait, ces violences et qui n'ont rien demandé.
Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui seraient soit découragés ou au contraire remontés et qui auraient envie de se battre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
À toutes les personnes qui sont découragées, déjà, au nom de la Lab, je leur envoie tout notre amour et tous nos soutiens. Il faut savoir qu'il y a énormément de structures qui s'auto-organisent. On a la chance d'avoir des... Enfin, même vous, Podcast Narnar, qui font des choses vraiment... Enfin, qui avaient une parole, en fait, des espaces de parole qui sont safe, des espaces de parole qui sont bienveillants, des espaces associatifs, des espaces qui existent dans tout ce brouhaha médiatique et politique extrêmement violent. Il existe des personnes qui œuvrent collectivement ou individuellement pour justement avoir une narration qui soit la plus émancipatrice, la plus incarnée par les principaux concernés, par les principales concernées. Ce que je peux leur dire, c'est de se tourner vers ce genre de production-là. C'est d'éteindre la radio, d'éteindre la télé et d'aller vraiment chercher ce type d'informations, ce type de podcasts qui existent, des associations comme la Lab aussi qui œuvrent pour les femmes musulmanes, d'aller sur notre magazine, d'aller chercher vraiment du réconfort dans nos productions, dans ce qu'on met en ligne, parce qu'il y a des belles choses qu'on met en ligne. Nous, chez la Lab, on essaie d'être dans la construction vraiment d'un discours, d'un un contre-discours qui soit le plus émancipateur, le plus joyeux possible, pas au sens utopique, enfin pas au sens naïf du terme, mais au sens, nous, les femmes musulmanes, en fait, on a de l'amour en nous, on a de l'amour, on a énormément de puissance, et cette puissance-là, en fait, elle existe et elle est, nous, on la met en forme par des articles écrits par des principales concernées, par nos événements. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller à ce type d'événement où vous allez retrouver de l'amour, de l'inspiration. Des personnes qui portent un discours extrêmement transformateur, puissant. Là, la thématique du festival sur les tisseuses, c'est extrêmement puissant de dire qu'il y a des femmes en fait, qui œuvrent à créer des liens, à renouer des liens, à des attaches même familiales traditionnelles, des ruptures qui deviennent ensuite des réconciliations. C'est extrêmement puissant de se dire qu'il existe en fait, des environnements où ces thématiques-là sont abordées de manière safe, bienveillante et qui remettent un peu de l'amour dans l'esprit des gens. Donc, je leur dirais de ne plus regarder les chaînes d'infos en continu, de ne plus aller sur Twitter aussi, parce que des fois, ça peut être extrêmement anxiogène, mais de se tourner vraiment vers des productions médiatiques, des productions podcast, des événements aussi qui existent et qui on a des femmes musulmanes et des femmes non musulmanes aussi, des personnes discriminées qui prennent la parole sur leur réalité, leur discrimination et qui promulguent de l'amour et qui transmettent de la force et de la puissance. Et c'est vers elles qu'il faut se tourner, vers eux qu'il faut se tourner, c'est à eux qu'il faut donner de la force.
Merci Fatima pour cette invitation à se réparer collectivement.
Merci Nadia pour ton invitation.
Cet épisode a été enregistré à Creatis, à Paris. Nana est un podcast coproduit par Lisa O'Mara de PR Lab et Radio Grenouille. Il est enregistré et monté par Morgane Perrault. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nana, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles.